On a lancé en Haïti une série de cérémonies officielles à la mémoire du président Jovenel Moïse, qui a été assassiné, vous vous en souviendrez, chez lui, il y a de cela 2 semaines. Évidemment, ça a été le chaos pendant un certain moment, même la consternation au surplus. Mais ces cérémonies sont organisées au moment même où le premier ministre désigné, qui avait été nommé quelques jours, quelques heures avant l'assassinat de Jovenel par le président Jovenel, eh bien, il s'apprête à remplacer donc le premier ministre qui était intérimaire, qui était Claude Joseph, qui lui va retourner aux affaires, je pense, à titre de ministre des Affaires étrangères en Haïti. Mais tout ça se fait dans un décor un peu particulier parce que l'enquête se poursuit afin de tenter de trouver qui sont les véritables responsables de cet assassinat télécommandé et commandé. On va retrouver Étienne Côté-Paluc, qui est journaliste basé à Jacmel, en Haïti. Le point sur la situation en Haïti, on va le faire ensemble si vous voulez bien. Bonjour Étienne Côté-Paluc.
Bonjour Jean-Luc, je suis à Port-au-Prince en ce moment d'ailleurs pour suivre un peu
les événements. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement au moment où vous êtes là à Port-au-Prince? Est-ce qu'il y a des cérémonies officielles? Est-ce qu'on pense aux obsèques? Comment ça va se passer?
Il y aura à 3 heures une passation de pouvoir du ancien premier ministre vers le nouveau premier ministre, Ariel Henry, comme vous l'avez nommé, qui a été nommé 2 jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et donc, tout le monde est attendu vers 15h à la primature au centre-ville de Port-au-Prince pour ça aussi. On s'attendait aussi à une cérémonie plus officielle proche du palais présidentiel aujourd'hui. J'ai pas pu me rendre tout l'entour, le Champ de Mars, qui est la grande place au centre de la ville dans lequel se situe le palais présidentiel, était fermé à la circulation cet après-midi, probablement justement pour une de ces cérémonies officielles.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les détails sur les funérailles du président? Est-ce qu'il y aura cérémonie d'obsèques?
Oui, mais au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, au nord, c'est dans le nord d'ailleurs que du nord d'ailleurs que le président est originaire. Donc tout ça devrait avoir lieu ce vendredi à 10h. C'est d'ailleurs on attend plusieurs gens là dans la région devraient se déplacer. C'est une petite ville, une petite ville comparée à Port-au-Prince, mais beaucoup d'officiels devraient s'y rendre. On apprend aussi que la première dame a refusé l'aide des deniers de l'État pour organiser les funérailles. Semble-t-il que c'est donc une funéraille organisée de manière privée.
De manière privée donc. Mais on attend quand même énormément de diplomates de l'étranger, je présume.
Oui, oui, oui.
Et de représentants.
Je présume également. Oui. Effectivement, ça risque d'être semi-officiel, semi-privé. On risque de trouver, il y a une commission qui a été créée justement pour organiser ces funérailles en collaboration avec l'ex-première dame.
Bon, comment se porte l'enquête entourant justement cet assassinat du président Jovenel? On a entendu toutes sortes de choses, des gens qui avaient des velléités de prendre la place ou d'être élus aux prochaines élections, de se présenter. Oui. Une communauté haïtienne à Montréal sans le vouloir, aurait participé à appuyer certains candidats qui, eux, sont soupçonnés peut-être d'avoir été dans le complot. C'est compliqué.
Oui, c'est assez compliqué. C'est certainement, en tout cas, un groupe de gens qui avaient dans l'idée d'amener une nouvelle gouvernance en Haïti. Certains qui auraient participé à ces réunions ont révélé dans des médias que l'objectif était de construire une meilleure Haïti et c'était pas nécessairement de prendre le pouvoir par la force, ou en tout cas de faire un coup d'État ou un assassinat politique. La personne au centre de l'affaire, selon la police, évidemment, il y aurait probablement aussi des gens qui auraient financé l'opération, dont on attend toujours des arrestations, ou en tout cas les noms plus en détail, avec le détail de leur implication. Mais la personne au centre, si on veut, symboliquement de l'affaire, ce serait un certain Emmanuel Sanon, qui aurait eu des connexions, comme vous le dites, avec Montréal,
ben
et
oui.
Qui avait des velléités aussi pour faire un hôpital. Il y a aussi, si ma mémoire est bonne, donc qui travaillait aussi dans l'humanitaire avec d'autres gens qui travaillaient aussi dans certains projets qui devaient appuyer Haïti. Et il y a une des personnes arrêtées qui est une personne qui fait la liaison avec avec Miami beaucoup, qui avait une école en banlieue de Jacmel. Donc, c'est toutes ces informations-là qui se rassemblent en ce moment et qui nous permettent de comprendre que au départ, il y avait peut-être un autre projet et certaines personnes plus précises étaient au courant du projet final. Mmh. Et on ne sait pas, probablement que dans les derniers jours, il y aurait eu un changement de stratégie ou il y aurait eu quelque chose qui se serait passé. C'est donc qu'on attend un peu plus pour savoir ce qui s'est passé exactement. Mais beaucoup de questions demeurent. Où était la sécurité? Que s'est-il passé avec la sécurité du président le soir des événements? On a appris hier, par exemple, que le président avait le temps de faire au moins 3 appels à des gens proches de lui ou à des chefs de sécurité de son entourage pour demander de l'aide alors que sa maison était attaquée.
Oh là! Alors, ça veut dire que, bon, il a été très conscient de ça. Ils sont pas arrivés puis faire une rafale puis l'abattre sans qu'il sache qu'il y avait un péril dans la demeure.
Exactement.
Dites-moi... Bon, je sais que c'est pas une obligation. La fortune, la richesse, le succès, ça arrive, même pour des gens qui originent de pays les plus pauvres. Je comprends ça, tout à fait. Mais il y a le monsieur en question, M. Sanon, qui a une propriété à Miami, qui a une propriété à Montréal d'environ 4 millions de dollars évaluée. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce monsieur-là, dans ses relations avec Haïti? Est-ce que c'est un... cas de la diaspora qui a fait des affaires, il a tout à fait le droit de faire fortune, j'en conviens, mais est-ce qu'il était en relation avec l'État? Avait-il des contrats particuliers, des relations particulières? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Voilà.
Mais c'était quelqu'un qui faisait des relations, surtout dans la diaspora, mais qui était plutôt inconnu dans la politique haïtienne, bien qu'il y avait fait certaines tentatives, semble-t-il, avec un parti politique, mais il n'était pas quelqu'un d'extrêmement connu. Il y avait une relation, une personne qui est toujours recherchée, qui aurait travaillé à un bureau de la justice de l'État jusqu'au printemps et puis avant d'être mis à la porte, semble-t-il, selon les dernières informations qui ont été publiées. Mm-hmm. C'est peut-être son seul lien, mais sinon, il y aurait peut-être aussi un ex-sénateur qui aurait été dans l'histoire. On attend de voir quelle est son implication, mais pour l'instant, il est toujours recherché. C'est les financiers, parce qu'évidemment, on s'imagine bien que ça pouvait pas être aussi simple que ça. C'est les gens qui ont financé l'opération qui est derrière tout ça, dont on attend des nouvelles, dont on a très peu de détails pour l'instant, parce qu'effectivement, comme vous le dites, M. Sanon, en tant que tel, semble pas avoir quelqu'un qui avait les poches pleines et assez pour faire ce type d'opération qui impliquait, je rappelle, plus d'une vingtaine de mercenaires colombiens.
Merci beaucoup, Étienne Côté-Paluc, journaliste basé à Jacmel, mais qui est présentement à Port-au-Prince et qui suit les événements et le déroulement, surtout la sermentation probablement du nouveau président. Merci bien.
Merci à vous.
Au revoir. Du nouveau premier ministre, parce qu'il n'y a pas de président, il y aura des élections. C'est ce nouveau premier ministre qui a été nommé il y a quelques jours avant l'assassinat de Jacmel par ce président, décédé aujourd'hui, qui mettra en place les règles d'une nouvelle élection que l'on souhaite démocratique la plus possible. Vincent Larouche, vous êtes journaliste à La Presse. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
L'homme qui aura organisé cet assassinat de Jovenel Moïse avait, semble-t-il, des ambitions politiques, mais dans ses ambitions politiques et sa stratégie, il aurait utilisé des noms d'Haïtiens montréalais ou d'ici, de la diaspora en tout cas.
Effectivement. Et donc, c'est quelqu'un qui, comme Étienne l'a dit, n'était pas très connu sur la scène politique haïtienne. C'est quelqu'un qui n'a jamais résidé à Montréal, mais qui passait son temps entre la Floride et Haïti, mais qui avait des contacts et des connaissances à Montréal et qui avait fondé à l'époque, cofondé un organisme d'aide humanitaire qui n'a jamais réussi à mettre en branle ses projets avec des gens du Québec. Mais les gens à qui j'ai parlé, qui ont notamment eu des contacts avec son organisme d'aide humanitaire, disent qu'il ne cachait pas son ambition de devenir président d'Haïti depuis longtemps. D'ailleurs, il y avait mis en ligne des vidéos et des sites web qui faisaient la promotion de sa candidature, même s'il n'était pas très connu sur la scène politique haïtienne. Mmh. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il faisait circuler jusqu'à récemment une soi-disant liste d'appui au sein de la diaspora, des gens influents, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des professionnels de la santé, des gens qui étaient impliqués dans la politique, dans les organismes non gouvernementaux et qui supposément appuyaient sa candidature comme président de transition pour 3 ans et dans le but, disons, de rétablir la confiance et d'organiser des élections équitables pour sortir de la crise politique.
Mais entre ça, qui est, ça peut être positif, là, mais là, il a usurpé ces noms-là. Là, c'est à l'insu de ces gens-là qu'il a fait ça.
Voilà. Alors hier, on a pris contact avec plusieurs des personnes dans la région de Montréal dont les noms et les numéros de téléphone apparaissaient sur cette liste. Et ils nous disent être extrêmement surpris. La quasi-totalité d'entre eux n'ont jamais entendu parler de ce monsieur Sanon avant qu'il soit arrêté pour l'assassinat du président. Ils nous disent qu'ils n'avaient jamais pensé appuyer la candidature de quelqu'un à la présidence. La plupart d'entre eux nous parlent que quelqu'un dans la diaspora à Montréal ici cherchait des appuis peut-être pour elle-même participer à l'organisation d'événements politiques ou être élu à un quelconque poste, mais pas du tout pour en parlant de la présidence d'Haïti ou quoi que ce soit, et qu'ils auraient donné leur appui à cette dame-là en qui ils avaient beaucoup confiance, une dame qui est décédée en avril dernier après la constitution de la liste, mais tous nous disent, on a utilisé mon nom, j'étais pas au courant, je n'appuie pas ce monsieur, je ne connais pas ce monsieur. Et pour ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liste-là, elle circulait, elle a été circulée pour donner de la crédibilité et gonfler la candidature de ce monsieur Sanon qui voulait devenir prendre la tête du pays.
Verra-t-on un jour la vérité dans cette affaire? C'est une bonne question, parce que ça a l'air d'être torturé, cette affaire-là, c'est incroyable, hein?
C'est très torturé, mais cela dit, la police haïtienne a avancé, a fait quand même preuve d'une certaine transparence au fur et à mesure où elle avançait dans l'enquête, et elle reçoit l'aide tant du FBI que de la police colombienne aussi, ce qui fait qu'il y a deux intervenants extérieurs qui sont là pour peut-être se surveiller l'un ou l'autre aussi et s'assurer que l'un ou l'autre ne tire pas la couverte de son côté.
Tout à fait. Vincent Larouche, merci beaucoup, journaliste à la presse, de ces explications. C'est la situation à ce moment-ci, merci, qui est tout à fait mouvante, cependant, du côté d'Haïti, évidemment. On est en train de faire l'enquête au moment où on prépare les préparatifs funéraires pour le décès de ce président assassiné qui a consterné le pays dans son ensemble et même la communauté internationale. Au retour de la pause, un dossier que je trouve intéressant, c'est assez particulier. Une chance, je vais avoir Nicole Gibault pour tenter de m'expliquer comment ça marche, mais quand vous allez comprendre l'histoire, puis quand je l'ai lu ce matin, je me grattais la tête pour comprendre comment ça peut arriver.